Monsieur Tadei, sur la question, alors peut-être plus sur la question pédagogique, que je peux comprendre, en tout cas, monsieur Blanchard, que la thèse, c'est-à-dire que la qualification qui est principalement académique, est-ce qu'elle permet, in fine, d'améliorer une pédagogie plus basée sur la compétence, qui est une valeur, je crois, assez partagée à la FAGE, d'avoir pas uniquement un enseignement académique, mais aussi un enseignement basé aussi sur la compétence, les problématiques d'insertion professionnelle, mais pas que. Quelle est votre vision là-dessus, sur le TADI, sur la procédure aujourd'hui de qualification, du recrutement des enseignants-chercheurs, et puis de la formation continue, généralement, plus généralement, au rapport à la pédagogie des enseignants-chercheurs?
Non, moi ce que je dirais d'abord, c'est je voulais vous féliciter de vous poser cette question, parce que je pense qu'il est essentiel de si on veut comprendre le monde dans lequel on est, il y a besoin de comprendre, y compris la manière dont on y rentre. Et à la fois pour les étudiants, et vous avez pas mal réfléchi à un certain nombre de sujets autour des étudiants, et évidemment vous posez la question de qui vous avez en face de vous, et comment est-ce qu'ils arrivent là, et comment est-ce que, d'une manière générale, ils sont sélectionnés, évalués, accompagnés ou pas dans ces choses-là. Donc ça, je pense que ça me paraît essentiel que vous posiez cette question. Moi, mon intuition profonde, c'est que pour apprendre au XXIe siècle, il faut quelque part être né avec le genre d'outils que vous avez. Et donc ça pose des vraies questions sur comment est-ce qu'on réinvente l'université. L'université, et en particulier celle-ci, a une longue histoire, mais c'est pas forcément un gage d'adaptabilité. Donc c'est un gage de valeur, c'est un gage d'une histoire qui s'est mise au service des étudiants, mais pas toujours. Si on regarde la manière dont les universités ont été créées, c'est en partie parce qu'il y avait une densité d'étudiants dans le quartier latin, puisqu'on y est, qui avaient envie d'apprendre, et il y avait un certain nombre de gens qui pouvaient leur transmettre des choses. À l'époque, la qualification n'existait pas. Donc on peut avoir un regard historique long sur ces questions. On peut avoir un regard via le web. Est-ce qu'il y a une qualification pour poster quelque chose sur le web? Bon, voilà, on voit bien que les choses ne sont pas exactement ce qu'elles étaient. On peut avoir un regard géographique, et on peut regarder différents pays et voir comment ils sont organisés. Je pense que c'est important que vous meniez cette réflexion, et que vous la meniez au niveau de votre génération, puisque une partie de la manière dont on pourrait répondre pour ceux qui sont dans le système depuis un certain nombre d'années, c'est ben, le système fonctionne, on continue à le faire fonctionner comme ça. Alors est-ce qu'il fonctionne si bien que ça? Vous avez le droit d'avoir un regard critique sur le sujet. Je pense que chaque citoyen y a droit, mais vous certainement pas moins que les autres. Et donc moi je pense que c'est très intéressant que vous ayez cette réflexion. Donc ça c'est ce point-là. Après il y a effectivement l'une des choses, pour être plus spécifique sur ce sujet, c'est être certain qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de compétent. Ça paraît effectivement une exigence. Alors encore une fois, comment est-ce que dans le temps et dans l'espace, on répond à cette question? C'est pas forcément toujours la même réponse. Et on voit même que, même en France, suivant les sections, donc c'est suivant les disciplines, on n'a pas forcément toujours le même regard. Après, quand on est dans un monde qui évolue très vite, on peut se poser la question des disciplines. Toutes les sections du CNU n'ont pas toujours existé de la même manière. On voit bien qu'il y a des débats, par exemple, en ce moment, pour les économistes se demandent s'ils doivent tous être exactement au même endroit ou pas, parce qu'ils n'ont pas forcément tous le même point de vue sur l'économie et la manière dont elle doit être enseignée, la manière dont on doit faire de la recherche. Donc comment, et ça c'est pour une discipline qui par ailleurs, et même l'économie n'a pas toujours existé, elle est née dans les facultés de droit, donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas évidentes. Et aujourd'hui, il y a une accélération de la production de connaissances. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 100 fois plus de publications scientifiques tous les 100 ans. Hein, ça fait 1 million de fois plus sur 300 ans. Donc c'est colossal. Personne ne peut tout connaître, même dans une sous-discipline. Par contre, on a tous besoin d'avoir compris comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on produit de la connaissance, comment est-ce qu'on la transmet. Et je pense que ça, c'est très important. Et effectivement, il faut s'assurer que les gens ont à la fois des compétences techniques et disciplinaires, parce que les disciplines ont cette force qui est de concentrer le regard. Elle développe des outils, hein, c'est à ça que sert la discipline. On peut se poser la question de pourquoi est-ce que les disciplines existent même. Parce que dans la nature, il n'y a pas de discipline. Dans la société, il n'y a pas de discipline. Néanmoins, les disciplines ont cette vertu d'aider à développer des outils, développer des corpus, des bases de données, etc. pour mieux permettre de répondre à certains points. Mais généralement, elles regardent uniquement sous un angle particulier. Et les problèmes de société ou les problèmes dans la nature, si on veut comprendre le vivant par exemple, eh ben on a besoin de regards très différents. On a besoin de regards, et donc aujourd'hui on voit des gens qui viennent de la physique, de la chimie, de la bio, de l'informatique ou des sciences humaines qui s'intéressent aux questions du vivant. Donc nous, on a été par exemple amené à créer une école doctorale dans laquelle on invite des étudiants venant de disciplines différentes à pouvoir s'interroger sur, par exemple, les objets vivants, mais aussi sur les nouvelles manières d'apprendre ou en quoi le numérique permet de changer un certain nombre de choses dans les relations à la connaissance. Comment est-ce qu'on s'approprie la connaissance? Comment est-ce qu'on la transmet et comment est-ce qu'on la co-construit? Parce qu'aujourd'hui, toujours plus de gens peuvent être des acteurs de cette société de la connaissance à laquelle on aspire tous. Donc on a besoin d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne chacun d'entre nous, mais aussi comment est-ce qu'on s'accompagne collectivement. Donc comment est-ce qu'on repense? Les universités ont joué un rôle essentiel, historiquement, de lieu de production et de transmission de connaissances. Je pense qu'elles continueront à jouer ce rôle-là, mais elles n'en ont pas l'exclusivité aujourd'hui, et probablement encore moins demain. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle essentiel. Et donc il faut qu'elles réfléchissent à quel est ce rôle-là, et donc il faut qu'elles réfléchissent à qui elles recrutent pour accompagner les gens qui y sont. Donc typiquement, on est dans un pays où on a les procédures que vous avez entendues. Il y a d'autres pays où il y a éventuellement d'autres procédures qui permettent éventuellement à des gens de la société civile de rentrer plus facilement. Comme enseignants ou chercheurs dans les universités. Donc est-ce que c'est un intérêt ou pas? On peut se poser la question. Est-ce que ça permet de faire des allers-retours plus fréquents? On peut encore une fois se poser ce genre de questions. Donc ça c'est... Et si on regarde par exemple, il y a de nouvelles manières de faire de la recherche, il y a de nouvelles manières d'enseigner, certaines sont par exemple liées au jeu. Eh bien, je ne sais pas très bien quelle est la section du CNU qui recrute des gens qui sont des game designers, mais on voit bien qu'il y a quelques universitaires qui s'intéressent à ces questions, mais aujourd'hui, typiquement, il y a beaucoup d'écoles de création de jeux qui ne sont pas dans le monde universitaire au sens où on l'entend habituellement, ils font partie de l'enseignement supérieur. Et donc, une partie des disciplines qui émergent naissent souvent aux marges de l'université, parce qu'on manque éventuellement de lieux pour les recevoir. Moi, je vous donnerai l'exemple d'un étudiant français que je connais. Il avait fait des maths et de la physique ici. Il est rentré dans une école doctorale à Harvard, en l'occurrence, pour faire de la biologie. Et il est ressorti en publiant des articles sur quelque chose qu'il a appelé culturomics. D'accord ? Donc, vous connaissez la génomique peut-être. La culturomics, c'est de dire, on a 5 millions de livres. Est-ce qu'on peut les analyser comme quand on analyse des millions ou des milliers de génomes ? Donc il a utilisé ce genre d'outils. Donc on voit bien que il voulait rentrer en France, et dans quelle section du CNU il peut aller? C'est pas complètement évident. Donc on voit bien que sur des sujets très émergents, se posent ces questions-là. Moi, la question, donc j'essaie de former des étudiants qui se posent des questions un peu différentes de celles qu'on pouvait se poser il y a quelques années. Encore une fois, je pense que le système marche bien pour les choses relativement classiques. Mais si on veut aller vers des choses émergentes, quel est le cadre dans lequel on peut le faire? Et donc c'est déjà une question au niveau disciplinaire. Mais c'est aussi une question en termes de pédagogie. Donc je vais revenir un peu sur la pédagogie. C'est vrai que la pédagogie, là on est dans un amphi, donc c'est pas très facile de faire une pédagogie super participative. On va essayer que le débat soit un peu plus vivant, je serais ravi de vous donner la parole très vite. Mais on voit bien que rien que l'architecture n'a pas été pensée pour quelque chose d'horizontal et de... Donc il y a des questions à se poser à tous les niveaux. Donc évidemment au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau de la manière dont vous êtes derrière des écrans. Je peux essayer de suivre ce que vous êtes en train de dire. Je vais regarder tout à l'heure lesquels ont tweeté ceci ou cela. Ça va me permettre d'avoir un autre feedback quasiment en temps réel. C'est difficile à faire en parlant, mais je vous promets, je vais le regarder dès que je vous aurai donné la parole. Donc on voit bien qu'il se passe des choses. Mais comment est-ce qu'on... Typiquement, les enseignants ont été formés à tout, sauf à ça. D'accord ? Donc, effectivement, par défaut, le plus simple, c'est de reproduire la manière dont on a été formé. D'accord ? Donc, si on a été formé dans un amphi, eh ben, on se dit qu'on va continuer à former des gens dans des amphis. Ça fait juste un nombre de siècles. J'ai une photo, une gravure quelque part qui montre que ça fait plusieurs siècles que le concept d'amphi existe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais donc, comment est-ce qu'on invente de nouvelles choses ? Et là, je pense que les enseignants ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin éventuellement d'être sélectionnés sur ce genre de choses. Est-ce que, oui ou non, ils savent utiliser des nouvelles pédagogies? Est-ce qu'ils sont au courant du fait qu'elles existent, même, parce que ce n'est pas toujours évident? Est-ce qu'ils sont capables est-ce qu'ils ont innové dans leur pratique pédagogique à un moment ou à un autre? C'est une question qu'on ne leur pose pas souvent dans les procédures de recrutement aujourd'hui, en tout cas dans notre pays. Mais il n'y a pas de raison. Et on voit bien que ça fait partie des choses qui sont importantes. Donc comment est-ce qu'on valorise au moment de leur recrutement, et puis au moment de l'accompagnement de leur carrière? Est-ce qu'on leur donne de la formation continue? Est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite? Donc, les universités sont un lieu de recherche très important, mais moi, je ne connais pas de recherche. Comment vous dire? Donc, les universités et le monde de la recherche plaident pour que le pourcentage du PIB investi dans la recherche et dans l'université soit le plus important possible. Et ça, c'est légitime. Et d'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui investissent beaucoup de R&D parce que c'est comme ça qu'elles s'adaptent à un monde qui change. Si vous discutez avec les ministres, par exemple, et vous leur demandez quel est le budget de R&D de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur en fonction d'enseignement supérieur. Moi, je viens d'autres ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de la Défense, ils ont tous des budgets de R&D. Ils sont nettement supérieurs à ceux qu'on investit dans nos propres universités. Donc il y a une vraie question. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en tant que chercheur, on passe beaucoup de temps à être le plus performant possible en matière de recherche. Est-ce qu'on est le plus performant possible en matière d'enseignement et de pédagogie? Je ne suis pas sûr qu'on s'en donne les moyens et qu'on en ait les moyens et que notre institution nous encourage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent le faire. Mais la plupart d'entre eux disent « Ah oui, mais si je fais ça, est-ce que ça ne va pas être au détriment de ma carrière scientifique ? Parce que pour l'instant, je suis évalué sur des critères, que ce soit au CNRS ou à l'université, sur des critères qui sont relativement spécifiques. » Et pareil, si je vais vers la société, et aujourd'hui le numérique permet d'aller vers la société, est-ce que je suis encouragé ou pas à le faire? Et encore une fois, je vois beaucoup de gens qui souhaiteraient le faire, mais qui hésitent à le faire à cause de ça. Donc il ne faut pas l'imposer, ce ne serait pas forcément légitime. Mais je pense qu'il est important de se poser des questions comme ça. Aujourd'hui, par exemple, il y a une nouvelle manière de faire de la recherche, une nouvelle manière d'apprendre qui, avec le numérique, permettent d'aller beaucoup plus loin, de créer des collectifs très importants qui résolvent... Donc on peut travailler aussi sur l'intelligence collective. Donc, je pense qu'on a besoin de se poser ces questions. Et je finirai sur l'insertion professionnelle parce que ça me semble essentiel. Les statistiques du chômage, vous les connaissez, je pense. C'est relativement inquiétant. Si vous voulez être un peu plus inquiet encore, sachez que dans les 20 ans qui viennent, 50% des jobs qui existent aujourd'hui, les économistes nous annoncent qu'ils auront disparu parce qu'ils auront été automatisés et une machine, un robot, sera capable de les résoudre. Donc ça nous pose des vraies questions sur l'insertion professionnelle à court terme, déjà c'est pas évident, mais à 20 ans, ça a l'air relativement inquiétant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il y a différentes formes d'intelligence, et il y en a beaucoup, on pourrait débattre de ça, mais je voudrais juste en souligner trois différentes pour l'instant. La première, c'est la capacité à connaître la solution des problèmes classiques. Et si vous avez été éduqué dans notre système, vous avez probablement résolu un certain nombre de problèmes classiques depuis un certain nombre d'années. Et donc le problème des problèmes classiques, c'est que les machines connaissent la solution de tous les problèmes classiques. Et si vous ne savez rien faire d'autre que résoudre des problèmes classiques, vous serez probablement un jour ou l'autre remplacé par une machine. Et donc c'est la question qu'il faut se poser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a heureusement d'autres formes d'intelligence. Il y a par exemple la capacité à résoudre de nouveaux problèmes. D'accord ? Et donc la société a de nouveaux problèmes, les entreprises ont de nouveaux problèmes, il faut apprendre à les résoudre. Et puis il y a un troisième niveau qui est la capacité à définir soi-même les problèmes. D'accord ? Et c'est là où je vous félicite quelque part, parce que je sens que collectivement vous êtes capable de vous poser de nouvelles questions. Et vous essayez de trouver de nouvelles manières d'y répondre en vous appuyant sur ce que d'autres ont pu faire au préalable et en même temps en développant votre propre réflexion sur le sujet. Et ça me semble essentiel. Donc on a besoin effectivement de ces différentes choses. Alors comment est-ce qu'on accompagne les enseignants-chercheurs là-dessus? Je pense qu'on a encore un peu de temps pour en débattre et je vais vous donner la parole.